Chers amis des cellules, bonjour. En prévision de la solennité de la Sainte Trinité dimanche prochain, je vous propose de méditer aujourd'hui sur le dogme de la Sainte Trinité à partir de trois articles du catéchisme de l'Église catholique, les numéros 253, 254 et 255. Je vous lis le numéro 253. La Trinité est une. Nous ne confessons pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes, la Trinité consubstantielle. Les personnes divines ne se partagent pas l'unique divinité, mais chacune d'elles est Dieu tout entier. Le Père est cela même qu'est le Fils cela même qu'est le Père et le Fils cela même qu'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire un seul Dieu par nature. Chacune des trois personnes est cette réalité, c'est-à-dire la substance, l'essence ou la nature divine. Alors évidemment, ce texte est difficile, mais je voudrais lever quelques-unes de ces difficultés. Je reviens sur l'expression « les personnes divines » ne se partagent pas l'unique divinité, mais chacune d'elles est Dieu tout entier. Eh bien, cela signifie qu'il n'y a pas en Dieu un tiers de Père, un tiers de Fils et un tiers d'Esprit. Voilà, Dieu n'est pas un élément composé dont il y aurait trois parties, comme je disais, un petit secteur de Père, un petit secteur de Fils, un petit secteur d'Esprit, pour donner le tout du camembert. Le Père est Dieu tout entier, le Fils est Dieu tout entier, l'Esprit est Dieu tout entier. Il n'y a pas un espace, entre guillemets, en Dieu, où il n'y aurait pas le Père, ou un espace où il n'y aurait pas le Fils, ou un espace où il n'y aurait pas l'Esprit. On ne peut pas non plus se représenter Dieu comme trois conducteurs dans une même voiture, qui se relairait au volant. Voilà, de temps en temps, ce serait le Père aux commandes, de temps en temps, ce serait le Fils aux commandes, de temps en temps, ce serait l'Esprit aux commandes, tandis que les deux autres seraient au repos ou inactifs. Alors, vous allez vous rendre compte que c'est souvent un peu frustrant, mais nous allons passer du temps pour dire ce que Dieu n'est pas, afin de pouvoir dire ce qu'il est. Mais c'est difficile de dire ce qu'il est. Alors on essaie de préciser les choses en disant ce qu'il n'est pas. Il n'est donc pas une sorte de cocktail avec un tiers de Père, un tiers de Fils et un tiers d'Esprit. Il n'est pas non plus une espèce de voiture conduite alternativement par trois conducteurs différents. Je vous lis le numéro 254. Les personnes divines sont réellement distinctes entre elles. Dieu est unique, mais non pas solitaire. Père, Fils, Esprit Saint ne sont pas simplement des noms désignant des modalités de l'être divin, car ils sont réellement distincts entre eux. Celui qui est le Fils n'est pas le Père, et celui qui est le Père n'est pas le Fils, ni le Saint-Esprit n'est celui qui est le Père ou le Fils. Ils sont distincts entre eux par leur relation d'origine. C'est le Père qui engendre, le Fils qui est engendré, le Saint-Esprit qui procède. L'unité divine est trine. Là encore, le texte est difficile, mais je voudrais revenir sur une expression où l'on dit « Père, Fils et Esprit Saint » ne sont pas simplement des noms désignant des modalités de l'être divin. Dire que Père, Fils et Esprit Saint ne sont pas des modalités de l'être divin signifie que ce ne sont pas des personnages qui seraient joués à tour de rôle par Dieu. Prenons un exemple. Imaginez un acteur qui prendrait successivement la voix de trois personnages différents. Imaginez, vous racontez le conte du petit chaperon rouge. Eh bien, vous allez faire une voix différente quand c'est le petit chaperon rouge qui parle, quand c'est Mère Grand qui parle, ou quand c'est le loup qui parle. Mais vous êtes toujours la même personne. Vous êtes toujours le même. À ce moment-là, on dirait que la voix du petit chaperon rouge, la voix de Mère Grand ou la voix du loup, ce sont des modalités du conteur. C'est juste le conteur qui prend un mode du loup, le mode de Mère Grand ou le mode du petit chaperon rouge. Mais c'est en fait toujours le même qui parle. Eh bien justement, la Trinité, ce n'est pas cela. Ce n'est pas un conteur qui prendrait trois voix différentes. Leur distinction, la distinction du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, est assurée par leur relation d'origine. C'est le Père, lui qui est l'origine sans origine, qui engendre. C'est le Fils qui est engendré. C'est le Saint-Esprit qui procède. La façon, la caractérisation de leur origine permet et nous assure de leur distinction réelle. Je lis maintenant le numéro 255. Les personnes divines sont relatives les unes aux autres. Parce qu'elles ne divisent pas l'unité divine, la distinction réelle des personnes entre elles réside uniquement dans les relations qui les réfèrent les unes aux autres. Dans les noms relatifs des personnes, le Père est référé au Fils, le Fils au Père, le Saint-Esprit aux deux. Quand on parle de ces trois personnes en considérant les relations, on croit cependant en une seule nature ou substance. En effet, tout est un en eux, là où l'on ne rencontre pas l'opposition de relations. À cause de cette unité, le Père est tout entier dans le Fils, tout entier dans le Saint-Esprit. Le Fils est tout entier dans le Père, tout entier dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit tout entier dans le Père, tout entier dans le Fils. La formulation est là encore difficile, mais je pense que nous pouvons l'éclairer quelque peu. On vient de dire que les personnes divines sont relatives les unes aux autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on utilise le terme de Père, c'est un terme qui est relatif. Il est le Père du Fils. Quand on utilise le terme de Fils, il est relatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Fils sans le Père. De la même façon, quand on parle d'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Père et du Fils. Le Père est Esprit, le Fils est Esprit, et l'Esprit Saint est l'Esprit du Père et du Fils. Le Père est Saint, le Fils est Saint. Le nom d'Esprit Saint reprend ce qu'il y a de commun au Père et au Fils. L'Esprit d'unité, justement, dans son nom, porte ce qui est commun du Père et du Fils. Cela nous amène à comprendre que la Trinité est toujours à envisager ensemble. Il n'y a jamais eu un moment où il y aurait eu le Père sans le Fils, et sans le Fils et l'Esprit. Il n'y a jamais eu un moment où il n'y aurait pas eu l'Esprit-Saint. Voilà. De toute éternité, le Père engendre le Fils, de toute éternité, le Fils est l'engendré du Père, de toute éternité, l'Esprit-Saint procède du Père et du Fils. Et cela a une première conséquence, c'est qu'il n'y a pas d'action divine sans qu'il y ait action du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Voilà. Chaque fois qu'il y a une action divine dans l'histoire, c'est une action du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Quand bien même on va mettre l'accent plus particulièrement sur l'action du Fils, ou bien sur l'action du Père, ou sur l'action de l'Esprit. Mais quand Dieu agit, c'est toujours Père, Fils et Esprit-Saint qui sont à l'œuvre. Pas forcément de la même façon, mais ils sont à l'œuvre, chacun. Prenons l'incarnation par exemple. Seul le Verbe, seul le Fils s'est incarné, seul le Fils a pris une nature humaine. Le Père ne s'est pas incarné, l'Esprit-Saint ne s'est pas incarné. La nature humaine de Jésus, c'est la nature humaine du Verbe. Et pourtant, l'incarnation s'est produite par l'action de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui a enfanté dans la Vierge Marie le Christ. C'est le Père qui a voulu l'incarnation du Fils, et le Père qui continue d'engendrer le Fils jusque dans sa nature humaine. Donc, quand bien même seul le Fils s'est incarné, l'incarnation au sens large est une œuvre du Fils, du Père et de l'Esprit. Toute action de Dieu est donc une action de la Trinité, et donc une action de la communion d'amour qu'est la Trinité, de la communion d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Cela est extrêmement important parce que ça a une conséquence sur notre façon de voir et de comprendre le monde. Souvent, on a plutôt tendance à concevoir et à comprendre le monde à partir de la seule unicité de Dieu. Dieu est un. Et ça donne parfois des conceptions où on a l'impression que le fait d'exister est premier et que le fait d'aimer est quelque chose de second ou d'accessoire, en tout cas qui pourrait ne pas être. Il y aurait d'abord l'existence et ensuite, éventuellement, si on a de la chance, l'amour. Or, lorsque l'on reçoit la révélation de la Trinité, on comprend que ce qui est premier dans l'être, c'est la communion d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. La communion d'amour n'est pas quelque chose d'accessoire, d'accidentel. La communion d'amour n'est pas quelque chose qui aurait pu ne pas être. La communion d'amour est le fond de l'être, c'est le fond de la vie divine, c'est la réalité de la vie divine. Et donc la création qui vient du Dieu communion d'amour est marquée en elle au plus profond par cette image de la communion d'amour. L'être, le fait d'exister, implique en lui-même une ouverture à la communion d'amour, car il a été fait par une communion d'amour, en vue d'une communion d'amour. Et donc, la vie d'un être humain porte en elle la vocation à la communion d'amour, parce qu'il a été créé par une communion d'amour, celle du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, en vue d'une communion d'amour, la participation à la vie de Dieu de façon éternelle. Et cela nous oblige à renverser notre façon de voir. Non pas d'abord l'être, je reçois l'existence et peut-être un jour je pourrai aimer, mais d'abord, je suis issu de l'amour. Et donc exister, ça signifie entrer dans une communion d'amour. Exister, ça signifie s'ouvrir, bâtir, répondre, développer une communion d'amour. Chers amis des cellules, j'espère que ces textes difficiles ne vous découragent pas, mais qu'ils vous stimulent au contraire pour mieux comprendre ce qu'est Dieu et donc ce qu'est l'homme créé à son image en vue de sa ressemblance, et vous stimulent aussi pour apprendre à aimer comme le Christ aime, pour pouvoir prendre notre place dans cette communion d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Je vous souhaite de bons échanges.